Voilà, bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons faire une lecture, nous allons poursuivre la prédication de dimanche. Et nous allons pour cela prendre un texte où David s'est trouvé dans une situation vraiment douloureuse. Parce que dans la vie, il y a des situations difficiles. Vous le saviez ? Oui, vous le saviez ? Je ne pense pas que j'apprends grand-chose. Alors dans 1 Samuel, au chapitre 30, David va faire une expérience peut-être une des plus difficiles qu'il a pu faire dans sa vie. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er. Voilà, nous allons lire jusqu'au verset 20. Regardez bien tout ce qui est écrit. Vous savez que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Donc tout ce qu'on lit est utile. 1 Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Je ne sais pas si vous voyez la situation. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisréel et Abigaï de Carmel, femmes de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. « Car tu atteindras et tu délivreras. » David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'étant arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et de l'eau et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues séchées et de masse de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service de l'homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kéréthiens, sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire redescendre vers cette troupe ?» Et il me répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays des Judas. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Moi, j'ai souligné ces trois mots. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, tout et plus encore. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disant, c'est ici le butin de David. Vous direz la suite, c'est quand même intéressant. Mais c'est ces trois mots qui nous intéressent à nous. David ramena tout. Et il avait absolument tout perdu. Vous savez, la vie, elle est faite d'épreuves. Et ces histoires, elles ne sont pas là pour juste nous raconter des trucs qui se sont passés il y a 2500 ans ou 3000 ans. Ces choses ont été écrites pour que nous puissions reproduire la même attitude de foi. Vous vous rappelez le titre de la prédication de dimanche ? Prenez courage. J'étais parti du texte de Jean où Jésus dit que le diable, c'est un voleur. Il essaie de nous voler, comme ça s'est passé là. David, il est arrivé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il arrive, il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Et nous avons un ennemi qui fait tout pour nous détruire. Il est appelé le voleur, mais il est appelé le destructeur. Dans l'Apocalypse, on va lire ce soir un autre texte qui nous parle de la façon dont Jésus appelle le diable. Dans Apocalypse au chapitre 12, c'est important mes frères et sœurs, les gens ne comprennent pas. Pourquoi tant de gens abandonnent la foi ? Pourquoi les gens abandonnent la foi ? Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les armes. Si vous avez fait l'armée, on vous a appris comment vous battre. On vous a appris à utiliser des armes, à utiliser telle ou telle arme, comment connaître l'ennemi, etc. etc. Et les chrétiens, ils n'apprennent même pas à comprendre le combat spirituel. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, mais nous n'ignorons pas ses desseins. Les gens, ils sont là, ils aiment Dieu, mais ils doivent connaître les desseins. On doit connaître Dieu, mais aussi on doit connaître les ruses de l'ennemi. On ne peut pas combattre si on ne connaît pas la façon dont l'ennemi a agi. Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » C'est le diable. « L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu une fois par an. » C'est comme ça que vous avez écrit ? Comment vous avez écrit ? Celui qui les accusait jour et nuit. C'est pas une peccadille, il n'est pas dit celui qui les accusait. Jour et nuit. La volonté du diable, c'est de faire en sorte que continuellement nous soyons accusés, que nous perdions l'assurance, que nous perdions notre joie, que nous perdions notre espérance, que nous perdions la certitude de notre salut. Cette accusation, ça détermine un combat spirituel qui fait que les chrétiens, ils peuvent perdre tout ce que Dieu peut nous donner. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner ? Qu'est-ce que Dieu peut nous donner ce soir ? Sérieusement ? La paix ? La vie avec Dieu, c'est quoi? Si vous la résumiez avec, je pense à 1 Corinthiens 13, car trois choses demeurent, alors c'est quoi qui doit demeurer? La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois vertus sont trois vertus. Quand vous lisez bien la Bible, vous voyez que ça fait partie de ces vertus que Dieu veut que nous entretenions, la foi, l'espérance et l'amour. Si on prenait le temps de les expliquer, ça suffit. Et tout cela, bien sûr, n'est possible que si nous avons vraiment du courage. Il faut du courage. C'est bien d'avoir des armes. À quoi ça sert un guerrier s'il a le casque, s'il a la cuirasse, s'il a tout ce qu'il faut et s'il n'a pas de courage? À quoi ça sert un guerrier qui est armé sans courage? Est-ce qu'il va pouvoir se battre? Et non, c'est pour ça que s'il y a bien une arme qu'un chrétien doit avoir à l'intérieur de son cœur, c'est du courage. Et si Jésus dit « Prenez courage, vous aurez des tribulations. » Des tribulations, elles remontent à quand votre dernière tribulation ? Il y a 20 ans en arrière ? Il y a 3 ans ? Elles remontent à quand votre dernière épreuve ? Aidez-moi. Ouais, mais est-ce que c'est étonnant ? Non ? Celui qui les accusait jour et nuit, le diable, il n'a de cesse de faire en sorte que devant Dieu, nous soyons méprisés, rejetés. Et heureusement que le Seigneur intercède continuellement pour nous. Vous êtes reconnaissant, Seigneur ? Des fois, vous dites, oh Seigneur, merci, parce que les frères y prient pour moi. Je sais que... Mais bénissez Dieu, c'est écrit, que le Seigneur Jésus intercède jour et nuit pour nous aussi. Dans son rôle, parce que là, il est dans son rôle en ce moment, dans le ciel, de souverain sacrificateur. Bon, on va pas entrer dans ce sujet. Prenons deux ou trois exemples. Regardez comment les hommes réagissent quand Dieu les appelle. Vous vous rappelez comment Moïse a réagi quand Dieu l'a appelé ? Comment Gédéon a répondu quand Dieu l'a appelé ? Vous avez vu ? On le lit ? C'est important. pour expliquer que c'est normal en même temps. Ne soyons pas trop sévères, mais apprenons. Parce que c'est facile d'être sévère. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, Dieu va appeler Gédéon. Alors, regardez sa réaction quand Dieu l'appelle. Alors, Juges, chapitre 6, verset 14. On va résumer. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous voyez, le gars, il était vraiment petit. Et regardez la réponse de Dieu. C'est toujours pareil en plus. Vous savez, Dieu, il ne rentre pas dans la psychologie, lui. Le Seigneur, il dit la vérité. L'Éternel lui dit, « Mais, qu'est-ce qu'il lui dit? Je serai avec toi. » Mes frères et sœurs, c'est sérieux la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de 3000 discours pour nous parler. Et ce soir, si nous sommes sérieux, nous devons bien... Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Prenons l'exemple de Jérémie, parce qu'il me vient à l'esprit. Mais c'est après Isaïe, ces grands prophètes. Jérémie, c'est quelqu'un, Jérémie. Hein? C'est pas quelqu'un, Jérémie? Ah, Oui, c'est quelqu'un, moi, je trouve. Regardez, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Alors, regardez. Bon, le Seigneur l'appelle. Verset 4, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous le savez, ça, que Dieu vous connaissait avant que vous soyez sur la terre? Je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regardez la réponse. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai, ne les crains pas, car je suis avec toi. » Et Dieu, chaque fois qu'il appelle quelqu'un, il lui rappelle, « Je suis avec toi. » Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Est-ce que c'est adressé qu'à Moïse, qu'à Jérémie, qu'à Gédéon et à toute la liste de ces hommes qui ont été appelés et qui ont dit « Ah, c'est pas possible, je suis trop petit, je suis qu'un enfant, j'y arriverai pas, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, etc. etc. » Dieu dit « Écoute, je suis avec toi. » Alors quelqu'un pourrait dire « Ah, mais moi, Dieu ne me l'a pas dit. » Mais dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a un texte où Dieu dit « qui sera avec nous ?» Est-ce que dit « Je serai ton aide, je serai avec toi » Oui, dans Hébreux chapitre 13, il y a des textes où on voit que ce que Dieu a dit à ses hommes, il le dit à tous ses enfants, qu'il sera avec nous. Mes frères et sœurs, c'est important qu'on soit simple. Si Dieu, ce soir, nous rappelle ce qu'il a dit à ses hommes, il nous le dit, on va le lire. On va le lire parce que c'est important que vous l'appreniez par cœur peut-être, que demain vous lisiez ce texte, c'est dans Hébreux 13 je crois, si je ne me trompe pas, oui Hébreux 13 verset 5, c'est important mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, perdent la foi, sont dans le combat inutile, parce qu'il y a des combats, je pense qu'il y a un bon combat, mais il y a des combats qui ne servent à rien. Est-ce que vous croyez qu'on peut se battre contre la chair et le sang? Est-ce que vous croyez qu'on peut se battre inutilement? Mais oui, bien sûr. Il y a des combats inutiles. Des combats inutiles. Ce que Dieu a dit à Gédéon ou à Jérémie, il vous le dit. Hébreux 13, verset 5. C'est important de comprendre ces choses par rapport à l'Ancien ou au Nouveau Testament. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. C'est pas n'importe qui. Il rappelle que c'est Dieu qui l'a dit. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Il y en a un qui aurait pu dire amen, franchement. Parce que c'est quand même important. Vous voulez vivre, vous voulez terminer la course dans la grâce, dans la force, en étant des vainqueurs. Eh bien, regardez ce que Dieu vous demande de croire. Regardiez ce que Dieu vous demande de dire. Vous avez lu est-ce que vous avez lu le livre des Nombres? Est-ce que vous avez lu le livre des Nombres? Vous l'avez lu. C'est quand Dieu envoie les espions, il y a un résumé, en partie, quand Dieu envoie les 12 espions, 12 chefs, 12 leaders, un de chaque tribu d'Israël. Ce n'étaient pas des guignols, c'était des responsables de tribus. Et Dieu leur dit, voilà, vous allez explorer le pays de Canaan et vous nous ferez un rapport de ce que vous avez vu. Ils s'en vont pendant 40 jours et ils reviennent. Ils sont 12. Et il y en a 10 qui vont dire, oui, d'accord, c'est vrai, mais il y a ci, il y a ça, et il y a des géants, et il y a ceci, et il y a cela. Et à 10 bonhommes, ils ont découragé tout le peuple. À 10 bonhommes, 10, pas beaucoup, 10, ils ont découragé. Les spécialistes des études disent qu'il y avait entre 2 millions et 3 millions de personnes. 10 bonhommes, 10 chefs qui ont découragé tout un peuple. Et les deux vaillants, Josué et Caleb, qui eux, dont Dieu dira, ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Eh bien, ils ont répété la parole. Eux, ils ont subi les 40 ans de désert. Et on voit bien que, si vous lisez cette affaire, on voit bien que de commencer à douter, regardez, d'ailleurs c'est résumé dans Hébreu. Vous êtes dans Hébreu? Ouais. Regardez, dans Hébreu, c'est bien de rester dans Hébreu. Dans Hébreu, chapitre 3, il résume cette affaire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Eh bien, c'est facile à voir. Regardez. On va lire, c'est pas compliqué, deux versets. Hébreux 3, versets 18 et 19. Vous avez résumé ce qui s'est passé dans le cœur des gens. Enfin, il vous faut lire, vous pourrez lire tous les chapitres, c'est mieux, mais en deux versets, vous avez une explication. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon, ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Voyez donc, Dieu explique que l'incrédulité a produit la désobéissance. Vous me suivez? Voyez, ils ne sont pas rentrés dans le repos parce qu'ils avaient désobéi. Mais en fin de compte, pourquoi on désobéit? On désobéit tout simplement parce qu'on est incrédule. Si vous croyez que Dieu dit ce qu'il dit, que Dieu sera avec vous, vous n'avez plus besoin de douter. Seigneur, tu seras avec moi. Ils l'ont payé cher. Hein? 40 ans de désert. Mais vous ne croyez pas qu'on le paye cher dès qu'on commence à douter, dès qu'on commence à râler, dès qu'on commence à déprimer, dès qu'on commence à dire « oui, mais ». Oui, mais c'est ce qu'ils ont dit les espions. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, Moïse. C'est un pays où coule le lait, le miel. Tu as raison. Mais mes frères et sœurs, si vous commencez à dire « oui, d'accord, le Seigneur, il a dit ça, mais t'as vu dans quelle époque on vit ?» Ça y est, c'est fini. Mes frères et sœurs, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, le Seigneur, il sera avec vous. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous croyez que Dieu va garder ses enfants pendant la grâce? Mais vous savez, l'autre jour, je lisais dans l'Apocalypse. Je lisais un verset, je me disais « mais quand même, Seigneur, tu es vraiment bon. » Je lisais, c'est quoi? C'est quel verset que je lisais? Quand Dieu, vous savez, il y a des frères. Alors attendez, que je ne me trompe pas parce que je... Oui, lisez-le avec moi. On sort du sujet, mais c'est pour vous dire que même quand il n'y aura plus la grâce de Dieu sur la terre, qu'il y aura la colère de Dieu sur la terre pendant la deuxième partie de la grande tribulation, regardez dans l'Apocalypse au chapitre 12, quand beaucoup de juifs et de chrétiens sûrement vont fuir dans une ville, certainement ça sera Petra en Jordanie, je le pense, avec vu mes petites analyses, mais qu'importe la ville, regardez la sollicitude de Dieu. Il y aura une ville pendant la grande tribulation qui sera protégée. Apocalypse chapitre 12, verset 5. Regardez, tout ça pour vous dire que même pendant la grande tribulation, Dieu prend soin. Alors, s'il le fait pendant la grande tribulation, à combien plus forte raison? Pendant la grâce. Apocalypse 12, verset 5. On va faire une étude sur l'Apocalypse. Vous allez voir qu'on va se régaler. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut entraîné vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Regardez bien. Où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi. Comment vous appelez ça, vous? C'est la grande tribulation. Ça va cartonner. Et laissez-moi vous dire que malgré la colère de Dieu, Dieu a préparé un lieu pour une catégorie de gens qui vont pouvoir fuir la grande tribulation. Et cette grande foule va être nourrie pendant 3 ans et demi. Il en faut de la nourriture qui est stockée. Qui c'est qui fait ça? C'est le Seigneur. Dieu prendra soin d'une certaine catégorie. On le verra de personnes pendant la grande tribulation. Et vous croyez qu'aujourd'hui, dans l'an de grâce 2015, vous croyez que Dieu ne peut pas prendre soin de nous? C'est pour ça qu'on attriste souvent le Saint-Esprit. Le résultat, c'est qu'on tourne en rond. Les Hébreux, on le paye cher quand on veut pas croire, tout simplement. Vous voyez, il ne put y entrer à cause de l'incrédulité. Combien les choses seraient différentes si on croyait, par exemple, le psaume 27. Alors là, il n'y a que l'embarras du choix par rapport au... Regardez, le psaume 27. Lisons les premiers versets. Rien que les 3 ou 4 premiers versets. Est-ce que vous lisez souvent ce psaume? Moi, le matin, souvent, je le lis. C'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, c'est... On devrait, je ne sais pas comment vous commencez vos journées, mais mes frères et sœurs, on devrait les commencer avec des psaumes, des textes, des promesses de Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de la nourriture. On l'a chanté, l'homme ne vivra pas de pain. Psaume 27 de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Bon, on le chante ça. On le chante pas des fois. Il y a des cantiques, non, ils sont chouettes, les mélodies. Elle est belle la mélodie. Bon, je chante pas bien, mais je veux dire, c'est une belle mélodie. Mais mes frères et sœurs, pour vivre ça, dès le matin, il faut dire, mais Seigneur, tu es avec moi. Et je prendrai courage. Et je ne me laisserai pas accuser. Je ne me laisserai pas voler. Je ne me laisserai pas détruire. Seigneur, tu as dit que tu serais avec moi. Ça doit me suffire. Ça ne devrait pas suffire que Dieu nous dise, je suis avec toi. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? D'une prédication de 3 semaines non-stop? Car ça ne changerait rien. On a besoin d'une parole. David, on va terminer parce que bon, je n'aurai pas le temps de tout vous dire ce que j'avais prévu. David, vous avez vu l'histoire. Il s'en va pour combattre, on le refuse, en fait c'est compliqué. Bon. Il retourne avec ses guerriers, il arrive chez lui, la ville brûlée. Il n'y a plus rien. Imaginez-vous ce soir, vous rentrez à la maison, il n'y a pas de maison. Il y a de la fumée. Imaginez-vous, vous rentrez ce soir et plus personne. Même le chat. Plus rien. Imaginez-vous, vous arrivez chez vous, il n'y a rien. De la fumée qui monte. David, il voit ça. La ville, ce n'est pas une maison. La ville. Imaginez, on habite, vous voyez, on est combien ce soir, je ne sais pas combien on est. Imaginez, on habite tout le même village. On a tous là. On arrive dans notre village, plus de village, de la fumée. On pleure, ils se disent qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Mais vous avez vu le verset clé? Vous êtes 1 Samuel chapitre 3. Il y a des versets clés dans la Bible. Qui va s'emparer ce soir de ce verset? Bon, c'est sûr que dès qu'il y a des problèmes, il faut chercher un coupable. Bon, ils ont voulu lapider David. C'est vite fait. Dans une église, quand il y a un problème, il faut chercher un coupable. Souvent, c'est... Oui. Bon. 1 Samuel, chapitre 30. Alors, David fut dans une grande angoisse. J'aime bien, moi, parler de toutes les fois où il est parlé d'angoisse. Parce que, quand même, dans la vie, il y a des moments quand même difficiles. Oui ou non? Vous voyez? C'est un homme de Dieu. Il n'est pas dans la petite déprime. Il est dans une grande angoisse. Si la Bible dit que c'était une grande angoisse, c'était une grande angoisse. Vous voyez comment j'ai vachement étudié. Car le peuple parlait de le lapider, parce qu'ils avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils. et de ses filles. Est-ce que c'est normal jusque-là?
Oui, bon.
Mais la suite, mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous prenez des notes. Je ne sais pas si vous prenez ces choses au sérieux. On a chanté, parle-moi, c'est parle-moi qu'on a chanté. Mais si Dieu vous parle ce soir, est-ce que vous notez, mais David, ils étaient 400, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez le choix qu'il fait? David, lui seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 8, il consulte Dieu. C'est vraiment, il a pleuré, il a été dans l'angoisse, bon, mais il y a un temps pour tout, c'est bon, ça, mais il y a un moment. Ça va un moment, ça, d'être pleurer, je veux bien pleurer, je veux bien être déprimé, je veux bien avoir un peu d'angoisse, bon, tout ça, on va pas accabler la personne. Mais il y a un moment donné, il faut se dire, stop. Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Et la parole qu'il a eue, poursuit. Un mot, vous voyez, Dieu ne fait pas de longs discours. Poursuit. C'était le mot de Dieu. Poursuit, car tu atteindras et tu délivreras. Et il y a un moment donné, il faut dire stop, ça suffit. Quand Josué, vous rappelez, Josué, c'est pareil, c'est une pointure. Quand Josué, il n'a pas consulté Dieu, et patatrac, les hommes sont partis à Haï, voilà, il y a eu une défaite, et il est resté toute la journée couché, à pleurer. C'est quelqu'un. Et Dieu va lui dire, mais pourquoi tu restes couché toute la journée? Vous connaissez ce texte? Vous le connaissez? Bon, il y en a qui ne le connaissent pas, on va le lire. Il faut lire ces choses. Mais notez-les, méditez-les, demandez à Dieu qui vous parle. C'est comme ça qu'on va sortir. Vous croyez que ça a été écrit pour qu'on se moque de Josué? Alors c'est où ça? Josué chapitre 6, je crois. Oui, 7. Josué chapitre 7. Bon, ils sont dans la défaite. Bon, qui ne connaît pas des défaites et des échecs? Bon, il est dans la défaite, il est dans l'échec. C'est quelqu'un, Josué. Hein? Alors il commence à se plaindre. Ah, Josué chapitre 7, verset 7. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi... » je vous assure que c'est impressionnant. « Pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?» Je crois que c'est la seule fois du livre où on voit une parole négative dans la bouche de cet homme. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Vous voyez? Parce que c'est bien de rester couché. C'est bien de se lamenter. Mais à un moment donné, Dieu peut nous dire, « Bon, écoute, ça suffit. Arrête. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer, arrête. » Si Dieu le dit, vous ne croyez pas que ça vaut la peine d'écouter? Mais pourquoi tu restes couché? Arrête, arrête-toi, réagis, lève-toi, reconsacre-toi et je serai avec toi. À quoi ça sert de se plaindre? Est-ce qu'il est dit dans la Bible, heureux ceux qui se plaignent? Heureux ceux qui font que râler? Est-ce que c'est écrit? Heureux serez-vous lorsque vous vous apitoirez sur votre sort. Non. Quand Dieu dit, mais maintenant, arrête. À quoi ça sert? Lève-toi et remets-toi au boulot, reconsacre-toi, fais les choses. Et ça peut-être que ce soir le Seigneur te dit, mais reconsacre-toi. Il y a des gens, ils sont en stand-by là, depuis des années, ils sont tout le temps au même point. Et Dieu pourrait leur dire en boucle, mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi! Et Josué, bien sûr, il l'a fait, et il est reparti, et il est recommencé. Le découragement, vous avez vu, 10 gars ont découragé tout un peuple. Dans les lois de la guerre, je ne sais pas si vous avez étudié les lois de la guerre dans la Bible? Non? Vous les avez étudiées? Il y a des lois dans la Bible. Nous, on écoute. Mais après, moi, je trouve que c'est bien. Regardez avec moi, dans le Deutéronome, sur le découragement, tiens donc, il y a des lois sur le découragement pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui encouragent les gens ou les découragent? Il vous faut le savoir quand même. Dans une armée. Moi, j'ai un privilège. Je me suis engagé dans un privilège. Quand j'étais jeune, pour fuir de chez moi, je me suis engagé dans une compagnie de combat. Et je ne pensais pas que ça me servirait aujourd'hui, autant. J'ai compris certaines choses. Mais je peux vous dire que moi, je ne me mettrai pas avec des gens qui me découragent tout le temps. C'est terrible, des gens découragés. Mais regardez, ce que je vous dis, c'est biblique. Les lois de la guerre. Alors, Deutéronome, chapitre 20, verset 8. C'est écrit, mes frères et sœurs. Deutéronome 20, verset 8. Quand même, c'est pas rien. Moi, je vais souligner ce verset. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Vous vous rendez compte? Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. C'est bien la preuve que le découragement est contagieux. Oui ou non? C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il nous faut veiller. Vous vous rendez compte, c'est des lois, c'est les lois de la guerre. Si vous observez quelqu'un de découragé, qui reparte chez lui, qui ne nous mette pas la pagaille dans les troupes. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que mes frères et sœurs, dans l'église du Seigneur Jésus, on devrait quand même veiller. Il y a des gens, ils sont tout le temps en vrac, tout le temps. Bon alors, il faut accepter, il y a des chrétiens, moi ça m'est arrivé d'enfuir, tellement ils me font du bien. Ça vous est jamais arrivé de fuir quelqu'un parce que vous savez qu'il va vous fatiguer? Mais moi j'en ai honte, mais moi je vous le dis parce que je ne vais pas faire le méga spirituel. Moi ça m'est arrivé de fuir des chrétiens. Parce que je savais que ça allait. Ils sont tout le temps, il y en a marre, je ne comprends pas. Bon, ça peut arriver à un moment donné. Mais mes frères et sœurs, moi je crois que Dieu est vivant. Moi j'avais lu l'histoire de Luther. Luther, c'est pas n'importe qui. Luther, il a attrapé une dépression. Il a attrapé une dépression sévère. C'est un homme de Dieu, c'est dans les biographies de Luther. Moi, ça m'avait marqué, ce témoignage. Et il était tout le temps en train de se plaindre. Ça a duré une semaine et il est parti. Il a dit à sa femme, je m'en vais me reposer dans les bois, je ne sais plus, il avait une cabane, je ne sais plus où. Il est parti et je reviens dans 7 jours, il faut que je me repose. Moi, je ris parce que sur le coup, ça me fait rire. Puis quand il arrive au bout d'une semaine, il arrive pareil. Il arrive, sa femme le voit arriver, elle était en deuil, en noir. Toute noire. Habillé en noir. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'au départ, Luther, c'était un moine. Hein, et il dit à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort? Et sa femme, elle regarde, elle dit, oui, t'es pas au courant? Et qui c'est qui est mort? Eh bien, c'est Dieu qui est mort. Quand je te vois comme t'es, je pense que Dieu est mort. Et ça lui a fait un électrochoc. Ça lui a fait un électrochoc, il a dit, mais c'est vrai, Dieu est vivant. Ça l'a guéri. Ça l'a guéri. C'est beau comme ce témoignage, hein? Vous l'avez lu ce témoignage, hein? Mais c'est magnifique. Moi, quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est vrai, que réalisons que Dieu est vivant. Il est vivant, un peu plus vivant que nous. Est-ce que vous le croyez? Il est vivant. Et quand Dieu dit, mais je serai avec toi, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut que je prêche jusqu'à 3 heures du matin pour que vous en soyez convaincus? On essaye? Ça servirait à quoi? À quoi ça servirait, franchement, que je prêche jusqu'à 3h du matin, moins 9h du matin? Alors, rien du tout. Vous devez vivre par la foi. Le découragement, c'est grave. C'est contagieux. Et dans l'église du Seigneur, dans nos couples, dans nos foyers, on devrait avoir la joie d'encourager les autres. Oui ou non? C'est pas ça. Vous sentez pas cette grâce de dire, moi je veux encourager mes enfants, je veux encourager mon épouse, je veux encourager mon mari, je veux encourager demain les gens que je croiserai, je veux les encourager. Parce que vous savez, le Seigneur il sait tout ce qui va arriver. Vous croyez que le Seigneur il est assis sur son trône et il est là en train de dire, qu'est-ce que je vais faire? Les protestants ont voté une loi machiavélique, qu'est-ce qu'on va faire? L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, il est assis sur son trône et il règne. Et il prendra tous ceux qui marcheront fidèlement avec lui. Et il sait exactement ce qu'il doit faire. Ne vous inquiétez pas. Prends courage, c'est un commandement. Et je termine avec cette pensée. Jésus a dit, prenez courage. Est-ce que ce soir, vous partez en prenant courage? En disant, oui, je prends courage. Vous savez, moi je suis étonné. D'ailleurs, quand je vois comme un païen, Le centenier, un homme de guerre, a dit à Jésus, dis un mot. Il avait compris l'autorité de Dieu. Il avait compris l'autorité. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mes frères et sœurs,
Pour être guéri, il n'y a pas besoin de 3 prédications. Pour être guéri, il y a besoin d'être convaincu que le Seigneur est avec nous. Je serai avec vous. Alors si votre parole est plus importante que celle de Dieu, vous aurez des problèmes. Si Dieu te dit qu'il sera avec toi, crois-le. Si le Seigneur te donne un commandement, prends courage, prenez courage. Tout à l'heure, vous allez rentrer à la maison. Qui c'est qui va boire en rentrant? Une tisane, un chocolat? Qui c'est qui va boire? Oui, Madame Bourdel, Madame Pen, oui. Est-ce que vous allez attendre à la table, vous allez vous asseoir et vous allez dire, bon, j'espère que la tisane de verveine, elle va venir. Seigneur, tu es tout puissant. Est-ce que Dieu pourrait le faire? Vous amener, oui. Mais je pense quand même qu'on a un peu, que Dieu nous a donné des bras. Je pense qu'on va aller dans le placard, on va prendre... Non, vous allez prendre la tisane, faire chauffer de l'eau chaude. Oui ou non? Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui s'assoit et qui dit « Seigneur, j'attends la camomille, qu'elle vienne. » Oui, mais tu vas passer par marchand 3 ou 4 jours. Vous êtes d'accord? Et quand Dieu dit « Prends courage », eh bien pour prendre. Eh bien demain matin ou ce soir, tiens, mais je vais relire les versets qu'on a lus avec Monsieur Beau. Je vais les relire. Moi, je veux pas décourager tout le monde. Je vous parlais tout à l'heure avec un peu d'humour des gens qu'on fuit, mais ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des gens, prenez quand vous êtes obligé de fuir un chrétien. Ça vous étonne ce que je vous dis ou ça vous est déjà arrivé? Ouais. C'est la preuve qu'il y a des chrétiens qui ne veillent pas. Mes frères et sœurs, nous devrions avoir la joie de nous encourager les uns les autres. Alors, prenez une concordance. Tout le monde aujourd'hui a une concordance. Tout le monde a Internet. Qui n'a pas Internet? Bon, mais si vous n'avez pas Internet, vous pouvez demander à votre fille, à votre pasteur, imprimez-moi pour jeudi, voilà, tous les textes sur le courage par la concordance biblique. Est-ce que vous êtes d'accord de le faire à quelqu'un si quelqu'un vous le demande? Bon, eh bien, vous voyez, tout le monde peut avoir accès à une concordance. Tout le monde. Vous vous rendez compte de mais je ne sais pas si vous réalisez la bénédiction que c'est. Eh bien, je vais prendre tous les textes sur le courage et je vais m'appliquer. Eh bien, mes frères et sœurs, ça plaira au Seigneur. Car comme je le dis souvent, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Alors que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être des défaitistes, des gens qui s'apitoient, que Dieu nous accorde cette grâce de croire que le Seigneur, il est avec nous tous les jours. Vous allez partir, le Seigneur est avec vous. Vous le sentez, oui, c'est bonjour. Quand j'ai souvent dit, oh, Monsieur Gau, ce matin, vous avez senti la présence de Dieu. Non. Est-ce qu'il faut sentir la présence de Dieu? Est-ce qu'il faut la sentir? Oui, ça, c'est sentimental. Que vous la sentiez ou pas, il est là, le Seigneur. Oui ou non? Oui, ça vous montre combien les gens sont sentis. Alors, s'ils ne la sentent pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Vous voyez comment les gens sont charnels et superficiels. Le Seigneur, il est là. Point barre. Il est là, dans votre voiture, il va être là. Il est partout, le Seigneur. Le vrai problème, c'est que vous ne pouvez pas le fuir. Ça, c'est ça, la vérité, en vérité. Le seul problème, c'est que Dieu est partout. Voilà. Vous le croyez? Et voilà. Voilà. Mais si vous croyez ça devrait aller un peu mieux. Allez, on va terminer en priant, en demandant au Seigneur qu'il nous aide à prendre courage. Si vous êtes découragé, si vous êtes toujours abattu, c'est régler ce problème ce soir. Réglez-le maintenant. Maintenant, là. Dites, Seigneur, j'en fais une affaire sérieuse. Sérieuse. Est-ce qu'on peut se recueillir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre? Toujours en train de s'apitoyer? Toujours en train de fatiguer les autres? Prenez la victoire ce soir. Bien sûr que le diable, il va essayer de vous accuser, de vous voler, de vous détruire. Mais qui c'est votre Père? Qui c'est votre Père? Bien sûr que Moïse, Jérémie et Gédéon, etc. Mais Dieu leur a dit, je serai avec toi. Et ça les a guéris. Et ça devrait nous guérir aussi. Seigneur, tu es avec moi. Dieu est avec moi. Tout à l'heure, quand je boirai ma tisane, quand je prendrai ma douche, quand je serai sous ma couette, je te sens, je ne te sens pas, on n'en a rien à faire. Tu es avec moi. Voilà, tu es avec moi. Demain, après-demain, tu es avec moi tous les jours. Tu l'as dit, c'est toi-même qui l'as dit. C'est même pas un pasteur ou un apôtre, c'est Dieu qui l'a dit. Alors mes frères et sœurs, faisons-lui plaisir. La Bible dit qu'il y a des choses qui font plaisir à Dieu. Il y a des choses dans lesquelles il met son plaisir. C'est les hommes qui ont la crainte de son nom. Les gens qui ont la crainte de son nom, ce sont ceux qui obéissent. Alors terminons en priant et vraiment en lui demandant son secours. Il le fera. Notre Père, notre Dieu, nous avons chanté tout à l'heure « Parle-moi ». Et nous croyons que chaque fois que nous nous réunissons, ta grâce est invoquée pour que tu puisses nous parler. Tu savais qui viendrait ce soir dans ta maison. Tu savais qui ce soir serait là. Et tu ne te moques pas de nous, Seigneur. Lorsque nous nous tenons devant ta face, lorsque nous te demandons du pain, tu nous donnes du pain. Alors nous te remercions pour le pain de ce soir. Nous te remercions pour, c'est vrai, la nourriture matérielle que nous avons pu prendre aujourd'hui. Combien nous t'en sommes reconnaissants. Mais aussi, comme nous l'avons chanté, nous le savons, que nous ne vivrons pas que de nourriture matérielle. Mais nous vivrons aussi de ce pain spirituel. Alors Seigneur, si tu dis ce soir à quelqu'un que tu seras avec lui, donne-lui de prendre cette victoire. Si tu demandes ce soir à quelqu'un de prendre courage, donne-lui cette grâce, le matin, le midi, le soir, continuellement de prendre courage. Parce que si tu dis que tu le donnes, tu le donnes. Seigneur, garde-nous. Garde-nous vraiment dans le creux de ta main, afin que jusqu'à la fin, nous ayons eu la joie sur la terre d'avoir été des sources de bénédiction. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.